franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, la découverte à Cuba d'une nouvelle souche du virus du sida. Cette variante serait extrêmement virulente et certains pays comme le Canada ou la Floride s'inquiéteraient déjà d'une potentielle épidémie à venir. Ces résultats viennent d'une étude parue dans la revue scientifique Biomédecine qui a été menée par des chercheurs de l'Université de Louvain en Belgique et de l'Institut de médecine tropicale de la Havane. Christine Rousiou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur cette information qui a été reprise dans le monde entier. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Descartes et virologiste à l'hôpital Necker. Est-ce que cette variante du virus est vraiment inquiétante ?
Pour ma part, non. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour de cet article. En fait, cette souche, elle n'est pas du tout nouvelle. Elle existe depuis 1980 à Cuba. Ce qui est intéressant, c'est la question qui est posée, les hypothèses qui sont soulevées. Mais pas plus, quoi. Il faut quand même faire attention à la diffusion scientifique et je suis toujours un petit peu étonnée de la reprise avec beaucoup de détails assez faux. Mmh. En fait, l'étude montre que des patients infectés par cette souche CRF19, donc un virus recombinant, irait plus vite vers la maladie. Aurait un risque de développer plus vite la maladie. Ils ont été mis sous traitement, le traitement a bien marché. Donc, c'est vrai, continuellement dans l'attente de se dire, est-ce que c'est comme l'épidémie de grippe où il y a une multitude de virus VIH, et bien il y a une multitude de virus grippaux. Et si dans une culture vous mettez un virus A et un virus B, ben à la sortie vous pouvez voir un virus AB qu'on dit recombinant. C'est pareil pour la grippe, c'est pareil pour le VIH. Et on a toujours peur qu'un virus plus virulent émerge. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une épidémie un petit peu particulière. D'abord, à Cuba, il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment, l'épidémie est à un niveau très faible.
Ouais. Donc, cette souche n'est présente qu'à Cuba ?
Elle est présente, cette petite épidémie est présente qu'à Cuba. Mmh. En France, là, moi, j'ai regardé les chiffres qu'on a dans la cohorte ANRS Primo. On a un cas depuis 2007, une seule souche chez RF19. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rare. Donc, je pense qu'il faut absolument rassurer le public. Ce n'est pas une nouvelle épidémie avec un nouveau virus. C'est une étude où on cherche un petit peu de physiopathologie, de virulence de différentes souches. Mmh. C'est en ça que l'information est nouvelle, mais pas le virus lui-même. Et je ne suis même pas sûre que cette souche soit beaucoup plus virulente parce que l'étude me pose des problèmes sur le plan des méthodes épidémiologiques.
Pourquoi ?
Parce que le nombre de patients décrits est 9. Je trouve que refaire toute l'histoire...
9 patients concernés.
Je trouve refaire toute l'histoire sur 9...
On parle
9...
pas d'une épidémie avec 9 patients.
Non, on parle ni d'une épidémie, mais et on cherche à savoir si c'est le bon dénominateur et le bon numérateur quand on cherche à savoir s'il y a une fréquence plus élevée de quelque chose. Mm-hmm. Il faut être juste, point de vue épidémiologique, pour décrire comment on a trouvé le numérateur et comment on a trouvé le dénominateur. Et donc là, j'ai un petit peu des soucis parce que la série est très petite.
Oui. Qu'est-ce qui vous gêne d'autre dans la méthodologie ?
Alors, de fait, j'ai discuté avec Madame Van Ham et effectivement, je lui ai demandé...
Qui est l'une des signataires
qui est la dernière signataire et qui porte l'étude et qui travaille visiblement à plusieurs publications avec les Cubains. Mmh. Je lui ai demandé comment elle pouvait affirmer ça alors que sur les autres types viraux, elle avait aussi quand même des signaux. Et elle me dit, ah ben non, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses épidémiologiquement. Donc voilà, entre scientifiques, on peut avoir des points de vue un petit peu différents. Pour ma part, j'aurais pas eu cette approche et ces analyses de cette façon-là.
Oui.
Une série de 95 patients n'est pas suffisant pour tout décrire. Et parmi ces 95, elle n'en a que 9 qui sont infectés.
Dans cette étude, on fait référence à ce qui a précédé, c'est-à-dire la bibliographie, aux autres études scientifiques
C'est là où aussi je trouve qu'il y a des petits manques, c'est que j'ai trouvé plusieurs papiers décrivant bien cette spécificité de l'épidémie à Cuba. C'est vraiment très particulier. D'abord, Cuba, politiquement, évidemment, c'est très différent. De fait, il n'y a pas de circulation, beaucoup de la population, elle reste localisée. Et les chaînes de transmission épidémiologique sont particulières. Donc, ce n'est pas le tout de trouver un virus. Il faut voir s'il a un risque d'émerger ou de faire émerger via une chaîne d'épidémiologie qui veut dire des comportements humains. Hein. C'est beaucoup plus compliqué simplement que la virologie. Et là, on est sur un territoire très particulier où depuis le début, il y a beaucoup de virus recombinants. Donc, j'ai trouvé pas mal de papiers qui montrent qu'il y a une épidémie, une épidémiologie moléculaire des virus à Cuba très particulière, avec un mélange, une haute diversité. Il y a plein de virus VIH-1 en Afrique, il y en a plein. Ouais. L'Afrique est vraiment le cœur de toutes ces sources de virus. Mais à Cuba, le mélange, la recombinaison génétique s'est fait de façon un petit peu particulière. Mais cette épidémie n'est pas nouvelle et ce virus n'est pas nouveau. Ce qui serait nouveau et qui est peut-être une vraie piste, c'est que peut-être ce virus est peut-être un petit peu plus agressif.
Quand même.
Peut-être, mais c'est très difficile à démontrer.
Est-ce qu'on a
déjà... Et là, c'est des balbutiements éventuellement.
On a déjà observé par le passé des virus qui avaient cette capacité de développer la maladie plus rapidement que d'autres.
Alors, on a eu des signaux à un moment avec le virus C, qui infecte beaucoup toute l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, parce que l'épidémie s'est étendue tellement facilement en Afrique du Sud. Mais là encore, les chaînes épidémiologiques, les comportements humains, c'est difficile à mettre ça dans un modèle mathématique pour comprendre quelle est la part de l'agressivité du virus et quelle est la part comportementale qui intervient dans une chaîne épidémiologique.
Comment ça émerge une nouvelle souche d'un virus ?
Il faut que, encore une fois, une personne peut se recontaminer. Ça, je pense que les gens n'ont pas cette notion en tête.
Une personne elle-même
VIH1 avec un virus B, par exemple, peut se surcontaminer avec un virus A. Et donc, de fait, elle-même peut produire des virus AB, etc. Et si elle a beaucoup de contacts sexuels ou de rapports non protégés et qu'elle n'est pas traitée, elle peut contaminer d'autres personnes avec ces virus recombinants qui peuvent elles-mêmes infecter. Donc, vous voyez la complexité de l'épidémiologie et de la transmission. C'est ça qui intervient dans tout ça.
Est-ce que vous avez le sentiment que les auteurs de cette étude sont dépassés eux-mêmes par l'ampleur, finalement, de l'écho qui lui est donné ?
Oui, ils sont très surpris. Ils ne pensaient pas du tout que ça ferait autant de bruit. Elle dit vraiment le mot « noise ». C'est vrai que étudier la virulence d'un virus, ce n'est pas forcément un phénomène mondial qui va arriver.
Il y a un problème de titre sur la publication.
Il y a sans doute un problème de titre et de présentation des résultats.
Vous d'interprétation savez, des médias aussi.
Ouais,
chacun sa part de responsabilité.
Je pense qu'il y a une part de responsabilité. Pour nous, scientifiques, on est toujours un petit peu choqués quand une information comme ça, surtout avec le sida, est tout de suite embarquée et annoncée partout, alors qu'il n'y a pas... Il y a des choses plus importantes qui se passent actuellement.
Une étude d'épidémiologie virologique médiatique pour identifier quels sont les médias qui ont...
Le virus du virus.
Voilà, qui ont grossi le phénomène.
On le fait et croyez-moi, on va qu'aux bonnes émissions.
Christine Rousio, c'était pour ça qu'on souhaitait vous accueillir, pour essayer d'éclairer un petit peu cette amplification, en tout cas, autour de la publication. On vient d'entendre tout à l'heure dans le flash de Maxime Debs qu'une substance anti-VIH avait été découverte et qu'elle pouvait protéger certains singes, justement, de la maladie. Vous connaissez là aussi cette publication ?
Non, je suis pas sûre de reconnaître. Il me semble que c'est plutôt un nouveau antirétroviral qui est à diffusion très très longue et qui permettrait le traitement de simplement une fois par mois et qui effectivement aurait l'avantage de protéger les personnes pendant longtemps, au lieu de leur faire prendre les médicaments tous les jours. Donc on a, effectivement, on part tous là, les Français, au grand meeting américain, à la CROI, à la fin de cette semaine, et il va y avoir beaucoup de nouveaux résultats sur, justement, tous ces traitements préventifs de l'infection, en donnant des médicaments à quelqu'un qui s'imbibe de médicaments avant le contact qui pourrait être contaminant, il est protégé. Et donc, effectivement, la recherche de nouvelles molécules à efficacité très très longue est extrêmement intéressante.
Merci beaucoup, Christine Rousio, d'être venue aujourd'hui dans La Tête au Carré. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une première mondiale avec une greffe de cœur sur un prématuré de 33 semaines. Olivier, c'est son nom, est devenu le plus jeune patient greffé du cœur au monde. Des médecins de Phoenix aux États-Unis lui avaient détecté de graves problèmes cardiaques, notamment un ventricule gauche beaucoup plus gros. L'opération qui s'est déroulée le 7 janvier, deux jours après sa naissance seulement, a duré 10 heures. Plus d'un mois plus tard, Olivier est toujours hospitalisé, mais il va très bien. Il pèse 2,8 kg selon les médecins. L'Australie aurait perdu 10% de ses espèces de mammifères terrestres depuis l'arrivée des premiers colons d'Europe et le phénomène ne fait que s'aggraver. Des chercheurs australiens affirment que l'étendue du problème a été largement sous-estimée. Pour eux, le rythme actuellement auquel succombent les mammifères australiens n'a rien de naturel. Ils évoquent une à deux extinctions par décennie. Et puis une nouvelle technique pour observer l'activité cérébrale en temps réel, pour l'instant seulement testée sur les souris. Cette technique utilise une nouvelle molécule appelée Campari pour mieux repérer l'activation des neurones. Le sujet n'a plus besoin d'être immobilisé pour être étudié. Cette avancée permettrait par exemple d'étudier l'activité cérébrale lors des interactions sociales. Et vous pouvez retrouver le GIF fascinant du cerveau en activité d'une souris sur la page Facebook de La Tête au Carré.